chapitre 49, verset 14. Pas un homme n'a existé ici-bas semblable à Enoch, car lui aussi, il a été enlevé de cette terre. Nul homme ne fut non plus comme Joseph, le prince de ses frères, le soutien de sa nation, le fils de Jacob. Et ses ossements ont été gardés avec soin. 400 ans plus tard, les ossements de Joseph ont été amenés en Terre Sainte. Sem et Seth, c'est les fils de Noé, ont été glorifiés parmi les hommes. Mais au-dessus de tout être dans la création est Adam. Et l'Ecclésiastique, hein, Ben Sirac, remonte très haut. Voilà. Un petit passage de Louange, chapitre 49, versets 14 à 16. Très joli. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que je vais vous lire? Vous avez maintenant les prophéties du serviteur. Et ce sont les prophéties d'Isaïe. Le serviteur de Yahvé, chapitre 42. Donc Isaïe vit environ 600 ans, 700 ans avant Jésus-Christ, et il parle du Messie comme s'il le voyait. C'est très impressionnant. Isaïe, c'est environ 720 avant Jésus-Christ. Alors, il y a des moments historiques dans le livre d'Isaïe et des moments totalement prophétiques, d'inspiration divine. Chapitre 42 du livre d'Isaïe. Voici mon serviteur. Là, c'est Jésus dans la Passion, hein. C'est cette semaine, hein. Que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. Vous voyez, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. J'ai mis mon esprit sur lui, l'Esprit Saint. Vrai Dieu, son Fils éternel, sa parole éternelle, et vrai homme. Il répandra la justice parmi les nations. Toutes ces nations chrétiennes à travers le monde. Il ne criera point, il ne parlera pas haut, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Alors vous allez me dire, Jésus, il a eu une ou deux saintes colères. Oui, mais là, pour le reste, il a été très très paisible. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas la mèche prête à mourir. Sa bonté vis-à-vis des pécheurs. Il annoncera la justice en vérité. Il ne faiblira point et ne se laissera pas point abattre, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et les îles seront dans l'attente de sa loi. On est quand même en 700 avant Jésus-Christ. Et Isaïe dit, l'Espagne va devenir juive, l'Italie va devenir juive. Pourquoi? Parce que quand ils partaient en bateau, les Phéniciens, les Juifs, quand ils arrivaient en Espagne, ils voyaient des terres après avoir vu la mer. C'était des îles. Et quand il est dit dans la Sainte Écriture, les îles seront dans l'attente de sa loi, ça veut dire que les non-juifs d'Europe vont devenir chrétiens, juifs. Ainsi parle le Dieu Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui donne la respiration au peuple qui l'habite et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice et je t'ai pris par la main. Je te garde et je fais de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations, des goïms, des non-juifs. Donc voyez-vous, les juifs pieux du temps du Christ, quand Jésus va dire « Je suis venu pour les brebis d'Israël » et que vous avez la Cananéenne, descendante, une philistine, n'est-ce pas? C'est comme si, je ne sais pas, en 1920, il y avait un Français et un Allemand. Hein, c'est une vieille haine, bien recuite. Et elle demande la guérison pour sa fille, je crois. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les brebis d'Israël. Et il n'est pas bon de donner des perles aux chiens. La nourriture des enfants aux chiens. Et la Cananéenne, qui ne se démonte pas du tout parce qu'elle sait qu'il est Dieu, qu'il est le Messie du peuple choisi, dit « Oui, mais les miettes du pain tombent de la table des maîtres et les petits chiens les mangent, les miettes. » Vous voyez ? Et donc là, le Christ loue sa foi et lui donne le miracle. Et à un moment donné aussi, juste avant la Passion, vous avez des juifs de la diaspora qui arrivent, et parmi eux des prosélytes, donc ceux qui ne sont pas vraiment juifs de descendance. Et là, le Christ est dans une extase et dit à ses apôtres, viendront du monde entier les peuples jusqu'ici. Et bien voilà ce qui est dit ici. Hein. La lumière des nations. Et donc les juifs pieux du temps du Christ se souvenaient de toutes les autres prophéties qui disaient que les autres nations allaient adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est pas extraordinaire en fait pour ceux qui sont imprégnés de la Sainte Écriture et de la volonté divine. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs du péché. Pas les assassins en série, hein. C'est pas la miséricorde pour des personnes qui ensuite vont recommencer à va et ne pêche plus, hein. C'est du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis Yahvé. Alors voyez, là c'est une traduction du chanoine Crampon. À l'époque, on n'a pas de religieusement correct. Donc comme dans Isaïe, c'est marqué Yahvé, je suis. Et que dans la synagogue, par respect pour le nom de Dieu, on met Jéhovah, ce qui ne veut rien dire en hébreu. C'est, par exemple, ça, c'est comme si je vous disais Vutura pour voiture. Et j'ai pris ma Vutura pour aller à Orléans. Vous voulez dire voiture? Oui, mais je respecte tellement le nom de voiture que je change les voyelles pour que quand je lis, je me dis qu'est-ce que ça, c'est, ce que ça veut dire. Et Jéhovah, ça veut rien dire. Hein, ce sont des voyelles stupides que ceux qui recopiaient les Saintes Écritures mettaient les masserettes pour qu'on s'arrête et qu'on dise le Seigneur. Mais depuis que les interdits de la loi sont fondus dans l'amour du Christ, eh bien, on peut dire le nom de Dieu. Alors, il y a quelques années, Benoît XVI, par gentillesse, a dit que dans la liturgie, quand il y a Yahvé, on devra dire le Seigneur, pour pas blesser les Juifs. Mais il faut aussi apprendre aux Juifs à se libérer de toutes leurs petites lois. Pour qu'ils aient plus de confiance dans dans Dieu Tout-Puissant. Je suis Yahvé, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous voyez ? Pas de dialogue interreligieux mielleux. Voilà. Voici que les premières choses sont arrivées, et j'en annonce de nouvelles. Avant qu'elles éclosent, je vais les faire entendre. Alors là, il y a des poèmes absolument magnifiques, mais je dois passer. Chapitre 43, verset 9. Que les nations s'assemblent toutes et que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a annoncé ces choses et nous a fait entendre des prédictions anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise « c'est vrai ». Aucune religion n'a de prophétie qui s'est réalisée, sauf la Bible. C'est tout. Vous êtes mes témoins, oracle de Yahvé, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous reconnaissiez et que vous me croyiez. Quand Jacob mourant, non, c'est Isaac, attendez, non, c'est Jacob, Israël mourant, qui dit à Judas, le sceptre restera dans ta famille jusqu'à ce que viendra celui qui est le désiré des nations. C'est une prophétie qui a lieu 1600 ans avant le Christ. Alors les exégètes vont dire, mais non. Mais oui, mais c'est dans la Genèse. C'est tout. Et c'est merveilleux. Et les rois mages, c'est qui? Ce sont des rois de vie, de petites villes. Des rois assez riches et qui se donnent à la lecture, à l'histoire, à la géographie, à la botanique, à la à l'étude des étoiles, à l'astronomie, et qui ont lu les écritures du peuple juif, et qui ont été frappés, et qui ont cru qu'ils avaient effectivement l'annonce d'un sauveur. Et ces trois rois viennent à Jérusalem au temps messianique. À la fin de la prophétie de Daniel, dans 70 semaines d'années viendra celui qui doit venir. Et voilà. Et qu'est-ce que dit Isaïe, 700 ans avant Jésus-Christ? Moi je suis le vrai Dieu, et quand j'annonce l'avenir, c'est vrai. Et je vous ai toujours donné l'exemple, allez voir des voyants et des voyantes, des sorciers qui invoquent des esprits, jamais ils ne connaissent l'avenir. Ils ne peuvent vous prédire que des choses qui peuvent arriver une fois sur deux et qui sont très probables et qui ne sont pas du tout une prédiction de l'avenir. Vous voyez ? Et ils ne connaissent pas, et j'insiste toujours sur mon exemple préféré, ni le tiercé, ni le loto. Pourtant, c'est quand même pas compliqué de voir un cheval passer devant un bâton. Même s'ils courent vite, la caméra voit le numéro, donc eux, ils pourraient quand même avoir des petits flashs pour le tiercé. Eh oui. Mais c'est pour ça que les prophéties, tout ça, sont importantes. Et que actuellement, vous avez plein de petits prophètes qui sont là, des apparitions. Le Christ dit bien, attention, hein, je serai là, au fond de la maison, je serai là, ici, et là, il y est là. Hein? Attendez le jugement de l'Église. Hein. Et vous en avez suffisamment actuellement. Je vous ai parlé de la prophétie d'Amsterdam, enfin de l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, 45-57, dont la représentation a fait l'objet de l'apparition d'Akita en 70-73, et qui a été reconnue par l'Église à chaque fois. Et ça, voyez-vous, c'est clair, c'est net. Sur les épreuves de l'Église et tout ça. Alors, le serviteur souffrant. Avant d'être souffrant, allez, je passe. Le serviteur de Yahvé, pas trop de triomphalisme, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur Yahvé m'a donné la langue des disciples, pour que je sache fortifier par ma parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute en disciple. Le Seigneur Yahvé m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Vous voyez, rien que pour ça, on doit devenir chrétien. Parce que le livre d'Isaïe, il a été trouvé dans 1000 exemplaires, enfin des exemplaires. Et je crois que dans les manuscrits de la Mère Morte, il y a Isaïe. C'est c'est au moins 200 ans, 400 ans avant Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, ça, c'est un montage, et on a pris un des douze du montage, dit, ben, c'est toi qui fera passer pour le Messie, et on va lire ligne par ligne, on va lire ligne par ligne tout ça, et on va l'appliquer. On va payer les soldats romains pour qu'ils te frappent comme ci, pour qu'ils fassent comme ça. Enfin, c'est une super production, hein. Enfin. Eh bien, non. C'est touchant de voir 700 ans avant une telle description. Le Seigneur Yahvé m'est venu en aide. C'est pourquoi l'outrage ne m'a point abattu. Vous vous rendez compte, il meurt crucifié. Et Jésus, je vous avais lu le psaume 21 la dernière fois, hein. C'est la certitude de la résurrection. Et qui ne fait pas ça en vain, par masochisme. Vous voyez ? Et la Vierge Marie, même si elle vit la passion, si son cœur immaculé est transpercé, elle ne perd jamais la foi en la résurrection de son Fils. C'est pourquoi j'ai rendu ma face semblable à la pierre. Je savais que je ne serais pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Qui plaidera contre moi ? C'est exactement le ton du psaume de David, 300 ans plus tard. Il est comparaisons ensemble. Qui est mon adversaire ? Qu'il s'approche de moi. Et le serviteur du grand prêtre, il semble même que c'est celui qui l'a guéri, à qui il a remis l'oreille. Parce qu'au tout début de la passion, Jésus montre qu'il est Dieu à deux reprises. Ils arrivent pour l'arrêter. Ils sont morts de peur. Pourquoi ? Pour eux, ils arrêtent au moins un sorcier, un magicien. Et Judas, lui, il est peut-être pas très fier, mais il l'embrasse. Et ensuite, il voit si Jésus fait un miracle. Et bien, le miracle, il va en faire deux. Ils arrivent et Jésus leur dit « Qui cherchez-vous ?» Il n'a pas peur. Il a été dans l'angoisse, dans sa prière de l'agonie. Mais il n'a pas peur. Il est, comment dire, triste jusqu'à la mort. Mais il n'a pas peur. Devant Pilate, il dit, mais tu sais, mon père, si je demande à mon père 12 légions d'anges, elles arrivent. Hein. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et il y a Pilate qui est là, il voit un homme qui a été frappé, qui a le visage tuméfié. Il a été frappé toute la nuit du jeudi au vendredi. Avant même la flagellation, Jésus n'est pas beau à voir. Hein. Coup de bâton, coup de poing, crachat, jeté par terre, mis dans une prison, un trou de basse-fosse dans... Il semble qu'on ait retrouvé la maison de Caïphe à Jérusalem et on a découvert dans les sous-sols des trous dans le sol où un homme peut tenir debout et qui étaient des prisons. Eh bien, Ponce Pilate n'en revient pas. Eh bien, voyez-vous, Jésus leur dit « Qui cherchez-vous ?» Et ils disent « Jésus de Nazareth ». Et il dit « C'est moi ». Et là, il les projette au sol. Même Mel Gibson n'a pas osé mettre ça dans son film. Ils sont projetés au sol. Eh bien, ils se relèvent. Vous allez me dire, pourquoi ils ne s'enfuient pas ? Mais parce qu'ils sont avertis que c'est un homme qui fait des signes, des prodiges. Et ils sont payés cher pour l'arrêter. Qui cherchez-vous ? À nouveau. Jésus de Nazareth, c'est moi, laissez-les partir. Vous voyez, celui qui va être arrêté, qui donne l'ordre à ceux qui l'arrêtent de laisser les autres partir. Et eux, vous avez Saint-Pierre qui sort un des deux glaives qu'ils avaient et qui tape dans le tas. Et là, vous avez une oreille qui est tranchée. Jésus prend l'oreille par terre et recrée le cartilage et la peau. En une seconde, et dit à Pierre, rengaine cette épée, celui qui agira par l'épée mourra par l'épée. Eh bien, il semble que ce soit celui qui a été guéri miraculeusement, qui soit dans l'incrédulité et le mépris. Quand le Christ répond au grand prêtre, mais j'ai parlé tous les jours, pourquoi m'interroges-tu? Il le gifle et dit, comment oses-tu répondre comme ça au grand prêtre? Et là, le Christ, imaginez, Dieu Tout-Puissant, vous voyez, celui qui a fait le déluge, qui a éliminé Sennacherib et compagnie, qui a fait tous les morts de l'Ancien Testament, Dieu Tout-Puissant qui, là, qui se concentre sur un seul homme. Il aurait dû se désintégrer, le bonhomme. Mais c'est le Sacré-Cœur qui se tourne vers lui. Mais c'est quand même aussi Yahvé. Hein. Woup. Pourquoi me frappes-tu? L'autre, il devait être liquide. Hein. Si j'ai bien parlé, et si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Et là, c'est... Vous voyez, le Christ s'est quand même défendu à ce moment-là. Attention, hein. Attention. Et là, Isaïe parle pour le Christ. Et là, le Christ, voyez-vous, il parle de son Père. Il est proche, celui qui me justifie. Qui plaidera contre moi? Et à un moment donné, dans le temple, il leur dit, « Et qui me convaincra de péché ?» Et là, ils s'écrasent tous. Mais oui, mais tu as fait une guérison le jour du sabbat, ce n'est pas permis. Et vous, quand vous sortez un âne qui est tombé dans un trou le jour de sabbat? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire, qu'il s'approche de moi? Le Seigneur Yahvé m'est venu en aide. Qui est-ce qui me condamnerait? Voyez, ça c'est dans le cœur de Jésus pendant qu'il est condamné par le Sanhédrin, pendant qu'il est condamné par Ponce Pilate. Tout ça résonne dans son âme. Mais il le tait. Mais n'oubliez pas que Jésus est innocent, il le sait, et tout ça bouillonne dans son âme. Hein. Attention, hein. À la fin des temps, vous savez, le Christ, il sera clair et net, parce qu'il aura tellement été patient, il aura donné tellement de grâce à ceux qui auront fait souffrir les innocents et tout, pour qu'ils se convertissent. Au risque de nous scandaliser, nous verrons des âmes se sauver alors qu'elles auront été des ennemis de tout bien. Mais si elles se sont converties, Dieu leur donnera le pardon. Ah, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement et la teigne les dévorera. Qui d'entre vous craint Yahvé et écoute la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres privé de lumière, qu'il se confie dans le nom de Yahvé et qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais vous tous qui allumez un feu et qui vous armez de flèches embrasées, allez dans les flammes de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous serez couchés dans la douleur. Mais non, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui a fait l'enfer. Mais il permet l'existence de l'enfer. Les personnes qui se damnent elles-mêmes. C'est vrai. Dieu ne damne pas. Mais Dieu permet la damnation. Et les damnés n'ont pas créé le feu de l'enfer. C'est une petite surprise du bon Dieu. Et les pères de l'Église disent, mais c'est par miséricorde que Dieu a mis un feu éternel en enfer. Ça fait une distraction. Par rapport à la haine. Par rapport à la haine de l'amour, ça les fait grésiller, ça les fait... Si vous voulez, le feu serait une miséricorde. À deux titres. Pour les vivants, pour nous foutre une trouille terrible, d'être brûlés vifs pour toujours. Et après la résurrection des morts, les damnés retournent en enfer et leur corps, vrai corps humain, est consumé, brûle sans se réduire en poussière. Ce sont des corps qui sont unifiés. Le feu les traverse et ils ne se consument pas. Vous voyez ? Donc c'est pas drôle en enfer. Donc pour nous pousser à réfléchir, avant les curés ils disaient, t'es là, ils disaient, vous allez cr- cramer, vous allez brûler, vous serez brûlés vifs. Et les gens ils disent, oh ben tiens alors, vous devez être gentils, vous devez vous aimer les uns les autres, sinon vous allez être brûlés vifs. Ah ben dis donc, c'est convaincant, hein. Aimez le Sacré-Cœur, il est doux, il est gentil, sinon vous allez être brûlés vifs. Ah oui, c'est un peu contradictoire, mais on comprend mieux, enfin bien, voilà. Et alors, deuxième argument des théologiens et des pères de l'Église, ce feu leur permet de s'ouvrir physiquement et d'oublier leur haine. Bon. Motif de confiance pour Israël. La délivrance des exilés. Sortez de Babylone. Et or là, le chapitre 52, verset 13. Voici que mon serviteur va prospérer. Dites quand même, on a des crucifix dans toutes nos églises. Qu'est-ce qu'il nous dit, Isaïe ? Il grandira, il sera exalté, souverainement élevé. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant. Tant il était défiguré. Son aspect n'était plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes. Regardez le suaire de Turin, hein. Un visage tuméfié, un vrai, vrai visage. Jamais un artiste n'aurait fait un nez écrasé, des pommettes gonflées, comme ça. C'est extraordinaire, le suaire de Turin, vous savez. Ainsi, il fera tressaillir des nations nombreuses. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru ce que nous avons entendu? Et à qui le bras de Yahvé a-t-il été révélé? Chapitre 53 d'Isaïe. Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme, ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face, en but au mépris, nous n'en faisions aucun cas. Vous n'allez pas me dire que les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi ne connaissaient pas Isaïe. Et que les apôtres et que Saint Jean, qui était un pharisien, qui a été étudié au temple, que Saint Paul ne pouvait pas quand même se dire, le Messie n'a-t-il pas été décrit comme souffrant dans Isaïe? Donc il ne pouvait pas être totalement dans l'attente d'un Messie glorieux. C'est pour ça que Nicomède se pose des questions. S'il médite les Saintes Écritures, il se dit, il y a Isaïe quand même. Il y a Jérémie aussi. Mais on va se coucher à minuit, donc on va terminer sur Isaïe. Qui a cru ce que nous avons entendu? Et à qui le bras de Yahvé a-t-il été révélé? Vraiment, alors là, c'est à pleurer, hein, chapitre 53, verset 4. Quand même, enfin, ça doit fendre le cœur de n'importe quel lecteur de l'Écriture. Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous, nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Voyez, si vous lisez l'Ancien Testament d'une manière sans âme, vous ne voyez que les punitions divines. Et vous ne voyez pas la manière dont Dieu veut frapper les hommes pour qu'ils se réveillent. Et le sacrifice d'Isaac, ça va être le sacrifice de son fils. Un sacrifice d'expiation du péché, de l'agneau de Dieu. Et vous avez le père de Nadaï dans les conférences de Carême qui vous dit que tous les sacrifices de l'Ancien Testament sont mélangés en Jésus. Parce que le sacrifice pour les péchés, c'était un bouc. Ce n'était pas l'agneau. Mais en même temps, c'était celui qui était la substitution des enfants d'Israël qui auraient dû mourir de l'ange exterminateur. L'agneau de la nuit de Pâques. Tous les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. Tous les pécheurs vont mourir. Alors vous allez me dire, il y a des bébés qui sont morts. Ben eux n'ont pas été jugés comme des pécheurs, mais ils, en tant que fils d'Égyptiens, ils étaient symboles du péché. Mais leur jugement a été particulier. Hein. Le bon Dieu va... Quand il y a une catastrophe naturelle, chacun est jugé suivant ses mérites. Hein. Ce n'est pas une punition pour tout le monde. Mais pour certains, c'en est une. Et bien là, voyez-vous, tout ce qui semblait, tout ce qui était punition divine, en Jésus-Christ, est l'innocent qui porte la peine et la punition pour les coupables. Et nous, nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais comment ce saint homme, il faut qu'il soit un grand saint, Isaïe, pour qu'il ait eu de telles révélations, aussi pointues, aussi précises, sur le Christ. Ce devait être un grand saint, Isaïe. Je crois qu'il a été scié en deux, avec une grande scie en bois. Parce qu'il embêtait tellement les Hébreux, à leur faire des reproches, et à leur demander de se convertir, qu'ils l'ont coupé en deux. Oui. Alors voilà, verset 5 du chapitre 53. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés. Pourquoi voulez-vous que je continue? Alors bien sûr, quand vous dites qu'Isaïe, ça a été inventé en l'an 200 après Jésus-Christ, ou ça a été écrit ceci ou cela, vous êtes fou furieux quand dans les manuscrits de la Mer Morte, on découvre un exemplaire d'Isaïe. Ah oui, mais non, alors tu peut-être rien. La rage. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La pure rédemption. Quand même. Comment le grand prêtre Caïphe, Anne, pouvait ignorer Isaïe? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie et Yahvé a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh, mon Dieu. On le maltraite et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie, et à la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre point la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement, et parmi ses contemporains, qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants, que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple? C'est fou, c'est extraordinaire, chapitre 53 d'Isaïe. Si un jour vous doutez de votre foi, il faut lire le chapitre 53 d'Isaïe. Et puis surtout, ancrez-vous dans le cœur et dans la tête que c'est 700 ans avant le Christ. C'est une prophétie. Et quand on chante à Noël de manière gentillette, « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » C'est drôle, c'est beau, c'est gentillet, mais il y a aussi Isaïe. Hein. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, avec deux assassins. Et dans sa mort, il est avec le riche. Joseph d'Arimathie est riche. Il a fait creuser un magnifique tombeau. Au Père Lachaise, il a une grande chapelle. Il n'est pas enterré dans le sol avec une plaque. Je ne sais pas si vous connaissez les cimetières parisiens, mais quand vous êtes riche, vous faites une petite chapelle. Mais il y a des petites chapelles, mais il y a des grosses chapelles. Joseph d'Arimathie, lui, il avait fait creuser. Il ne voulait pas être enterré. Il avait fait un creux dans un rocher avec deux salles. Une salle pour déposer le corps et l'embaumer, et une salle où on déposait définitivement le corps. Et on roulait devant ces deux salles une grosse pierre pour fermer la caverne. Alors qu'il n'a pas commis d'injustice et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche, il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance. Mais qui peut comprendre ça sans l'amour de Dieu, sans le sacrifice d'Abraham, sans Isaac? Celui qui lit le sacrifice d'Abraham en disant « Vous voyez bien que le Dieu des Hébreux, il est épouvantable, il demande à un père de tuer son fils. » Il faut quand même être... D'abord, il ne meurt pas, il est substitué, et c'est pour signifier 1700 ans plus tard la mort de son propre fils. Et les paraboles du Christ qui disent « Un roi qui a envoyé son fils pour les noces. Le maître de la vigne qui envoie ses serviteurs, puis son fils, et il le tue. » Voilà. Et ça, ce sont des prophéties quelques mois avant sa mort. Mais Jésus lui-même annonce sa mort. Et il prend les accents des prophètes. Il leur redit pour qu'ils se souviennent de leurs écritures. Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance. Mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, vous voyez, c'est le début du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as brisé. Et la fin du psaume 21, et je chanterai ta louange. Et voilà. Il a plu à Yahvé, verset 10 du chapitre 53. Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance, mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une prospérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasira. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands. Il partagera le butin avec les forts. Parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs. Et lui-même a porté la faute de beaucoup. Et il intercédera pour les pécheurs. Chapitre 54. Pousse des cris de joie stérile qui n'enfantaient pas. Éclate de joie et d'allégresse. Toi qui n'as pas été en travail, car les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de celle qui avait un époux, dit Yahvé. L'humanité dans le péché, dans la mort, voilà que Dieu se marie avec elle. Et vous vous rendez compte le contraste. On ne peut comprendre le chapitre 54 qu'avec le chapitre 53 et inversement. Élargis l'espace de la tente, qu'on déploie les tentures de ta demeure. Ne les retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Hein? C'est un peuple de bédouins, hein? En partie. Donc toutes les images sont très claires pour eux. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité prendra possession des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondu. N'aie point honte, car tu n'auras pas à rougir. Car tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton époux, c'est ton Créateur. Yahvé des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car comme une femme délaissée et affligée, Yahvé te rappelle... Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Un instant, un moment, je t'ai abandonné. Parce que l'humanité est dans le péché et dans l'ingratitude. Mais avec une grande miséricorde, je te rassemble. Dans une effusion de ma colère, je t'ai caché un moment mon visage. Mais avec un amour éternel, j'ai compassion de toi, dit ton Rédempteur Yahvé. Si vous voulez comprendre Dieu, il faut l'écouter. Donc quand il y a des punitions divines, c'est parce qu'il n'en peut plus, mais il garde son amour. Comme une mère qui donne une fessée à son enfant tant que l'ONU ne l'aura pas interdit. Ou qu'un père donne une gifle à son fils, insolent. Il continue à aimer son fils, même en le battant. Oui. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Donc, à la fin des temps, quand vous aurez des cataclysmes en série et qu'un tiers de la surface de la Terre sera désintégrée, qu'il y aura peut-être au moins 2 milliards de morts, on continuera à dire « Vive Jésus et vive sa croix, comme il nous aime !» Voilà. Mais parce que si vous savez quelle est l'intention divine et que Dieu est amour, vous savez pourquoi à un moment donné, il n'aura d'autre moyen que de nous punir. Mais il a bien dit, je ne vous punirai pas jusqu'à la fin des temps. Allez, ça fait 2000 ans qu'on est tranquille quand même. Vous allez me dire, oui, mais il y a eu la grande peste dans les années 1300, les deux tiers de l'Europe est morte, c'était une punition divine apocalyptique. Ouais, bon, enfin, on est actuellement 6 milliards. Donc voilà, tandis qu'à la fin des temps, on va tous mourir, vous voyez. Donc, ça sera progressif, mais on saura que ça sera pour bientôt. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé, lorsque je jurais que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Ainsi, j'ai juré de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Promesse de Gascon, hein, on est en 700 ans avant Jésus-Christ, et vous avez Saint Jean qui dit, à la fin des temps, rebelote comme du temps de Moïse. Voyez. Mais, voyez-vous, à la fin des temps. Ça veut dire qu'on aura eu un temps incroyable pour nous convertir, pour parler de Jésus, du Sacré-Cœur, de Marie, de son cœur immaculé, de la miséricorde divine, tout gentil Jésus avec les rayons lumineux qui sortent de son cœur et tout ça, des vierges illuminées avec des petites lumières, pling, 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 pling. Vous voyez ? Mais oui, mais après qu'on dise qu'on est une religion méchante et tout ça, et qu'ils aillent à Lourdes et qu'ils voient un peu la piété populaire à Lourdes, vous voyez. Mais en même temps, à Lourdes, c'est pénitence, 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 vous voyez. C'est pas si rigolo que ça à Lourdes. Quand les montagnes se retireraient et que les collines seraient ébranlées, mon amour ne se retirerait pas de toi. Jeu de mots apocalyptique. Quand il y aura les catastrophes de la fin des temps, je t'aimerai encore. Oui, oui, c'est l'amour vache. Oui. Et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, Yahvé. Malheureuse, battue de la tempête sans consolation, voici que je coucherai tes pierres dans l'antimoine et que je te fondrai sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. C'est la Jérusalem céleste. Tous tes fils seront disciples de Yahvé. Tes fils jouiront d'une grande paix. Tu seras affermi sur la justice. Loin de toi l'angoisse, car tu n'as rien à redouter. La frayeur, car elle n'approchera pas de toi. C'est beau. Mais voyez-vous, quand ceux qui lisent la suite en disant « Oh mais Jésus va revenir et on aura 1000 ans d'American way of life. » Le millénarisme. Tout le monde, pas de maladie. Je ne sais pas comment on va faire pour ne pas mourir pendant 1000 ans alors qu'il n'y aura pas eu la résurrection des morts. Le millénarisme dit « Il n'y aura plus de guerre, on sera en paix, on sera tous heureux. » Et puis 1000 ans plus tard, tout d'un coup, Satan sera déchaîné et il va arriver. Mais 1000 ans avec Jésus comme président de l'ONU, je vois pas. Voyez. Et c'est là qu'on voit que le millénarisme est une erreur. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Chapitre 66. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Verset 18. C'est beau. Mais si vous voulez, c'est les montagnes russes de lire la Sainte Écriture. C'est pour ça qu'il faut avoir du recul. C'est pour ça que l'Église catholique vous a toujours dit « On ne lit pas la Bible !» Pardon ? Sans interprétation, sans commentaire, car elle peut vous emmener d'un point à un autre de réaction et de sentiment. Alors quand les protestants lisent la Bible comme ça, tout seuls, en disant à l'Esprit-Saint de les inspirer, de remplacer 2000 ans de paroles de l'Église, eh ben, c'est difficile. Les uns deviennent comme ci, les uns deviennent comme ça. Verset 18, chapitre 66. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire, et je ferai un prodige au milieu d'eux. Et j'enverrai de leur réchappée vers les nations, à Tarsis, à Ful et à Lud qui tirent de l'arc, à Tubal et à Yavan, vers les îles lointaines, Espagne, Italie, qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Et ils ramèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à Yahvé, sur des chevaux, sur des chars, en litière, sur des mulets et des dromadaires, vers ma montagne sainte, à Jérusalem, dit Yahvé. Comme les enfants d'Israël apportent l'offrande dans un vase pur à la maison de Yahvé, et j'en prendrai même parmi eux pour prêtres et pour Lévite, dit Yahvé. Mince alors. Moi qui suis pas de la tribu de Lévi, ni de la famille d'Aaron, Isaïe me permet, au chapitre 66, verset 21, de devenir prêtre. Voyez, et c'est impressionnant. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, oracle de Yahvé, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Yahvé. Alors, j'ose pas... Si... C'est tellement beau, c'est dommage, verset 24. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. Petit verset sur l'enfer, juste après tant de bonnes nouvelles et d'élargissement de la révélation à tous les peuples, un petit coup derrière les oreilles, le ver qui ne meurt pas, le ver rongeur, c'est une des descriptions...